RFI, 9h30 à Paris, il est 10h30 à Goma.
Nemo en piste.
Goma et les inquiétudes de la MONUSCO, la mission de l'ONU, alors que les combats se sont poursuivis ce vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo. Armée congolaise et groupe armé du M23, soutenus par le Rwanda, se sont affrontés à Sake et à Kibumba, non loin de la capitale du Nord Kivu. Hier également s'est tenue une réunion du Conseil supérieur de la défense à Kinshasa. Et ce lundi, c'est à New York que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence. Au Burkina Faso, sa première interpellation avait eu lieu le 24 janvier 2024. Un an après, les avocats de Guy Hervé Kam dénoncent toujours une détention arbitraire. Vous entendrez Maître Saïd Larifou, l'un des membres de son collectif de soutien. Le Sénégal dans ce journal où l'Assemblée nationale a finalement tranché et a levé l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Et puis en Gambie, cette question, va-t-il vraiment faire son retour? En tout cas, l'ancien dictateur Yahya Jammeh a exprimé hier l'intention de revenir au pays et de revenir à la tête de son parti. Poursuite des affrontements ce vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise et ses alliés opposés au groupe M23 soutenu par le Rwanda. Deux fronts ouverts non loin de la capitale du Nord Kivu, Goma. L'un à Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest, l'autre à Kibumba, au nord de la grande ville. Une situation qui inquiète au plus haut point les Nations Unies. Le Conseil de sécurité, je vous le disais en titre, se réunit ce lundi en urgence à la demande de Kinshasa. Et sur place, la mission onusienne de stabilisation, la MONUSCO, dévoile également ses inquiétudes. Je vous propose d'écouter sa porte-parole, Radilo.
Au Nord Kivu, la MONUSCO rapporte que des affrontements violents persistent entre le M23, les forces armées de la République démocratique du Congo et d'autres groupes armés, notamment près de Sake, une ville proche de Goma. Les positions défensives de la MONUSCO et des FRDC déployées et maintenues dans cette zone dans le cadre de l'opération Springbok sont donc sous pression. Le 21 janvier dernier, des combats à Bouemera ont fait au moins 10 morts, entraînant des déplacements massifs dans la province du Sud Kivu, ainsi que vers Goma et Rusayo. Par ailleurs, des échanges de tirs de mortier continuent de menacer les populations déplacées dans les sites autour de Goma et de Sake. Vous savez, il y a environ plus de 2,8 millions de personnes qui ont été déplacées depuis le début de la crise. L'ONU réitère qu'il est impératif que le groupe armé M23 dépose les armes et respecte le cessez-le-feu en place depuis le 4 août. La MONUSCO exhorte également toutes les parties à rester engagées dans le processus de Luanda que nous soutenons.
Radilo, porte-parole de la MONUSCO avec Paulina Zidi. 5 casques bleus ont été blessés ce vendredi. 4 ont subi des blessures mineures. C'était jeudi. La MONUSCO, vous l'avez entendu, qui réitère cet appel au M23 pour qu'il cesse immédiatement son offensive et se retire de toutes les zones occupées. À noter que ces affrontements au nord de Goma ont endommagé une ligne électrique importante. Des coupures de courant ont été enregistrées vendredi soir. La société Virunga Energy a annoncé que les réparations ne pourront débuter que lorsque les conditions sécuritaires le permettront. Mercredi, c'est une autre ligne qui alimente Goma qui avait été endommagée dans les combats au sud Kivu. J'ajoute qu'hier, le président congolais Félix Tshisekedi a réuni les principaux responsables sécuritaires du pays lors d'une réunion du Conseil supérieur de défense à Kinshasa. Il a donné des instructions pour renforcer les troupes en matériel et améliorer leurs conditions de travail. Il a également décidé de l'envoi imminent d'une mission de haut niveau dans la province du Nord Kivu. Les circonstances de la mort du gouverneur militaire de la province, Peter Chirimwami, ont également été évoquées. J'ajoute que le Royaume-Uni, la France et les États-Unis ont demandé à leurs ressortissants présents à Goma de quitter la ville. L'Union européenne, ce matin, se dit très préoccupée et demande également au groupe armé du M23 de cesser son avancée. On vous tient évidemment informé de l'évolution de la situation dans l'est de la RDC tout au long de la journée et dans notre prochaine édition consacrée à l'actualité africaine. Rendez-vous à 12h30, temps universel. Au Burkina Faso, cela fait environ un an que Guy Hervé Kam est retenu à la prison militaire de Ouagadougou. Son collectif d'avocats qualifie cet emprisonnement de détention arbitraire. Les autorités burkinabées reprochent à Guy Hervé Kam sa participation présumée à un complot. De leur côté, ses avocats estiment qu'il a été privé de sa liberté en violation de ses droits. C'est ce qu'ils écrivent dans un communiqué diffusé ce jeudi. Maître Saïd Larifou est comorien et membre du collectif des avocats de Guy Hervé Kam. On l'écoute.
Maître Kam est très respectueux des institutions, notamment judiciaires, de son pays, étant avocat. Il est respectueux également de toutes les institutions de son pays. Il est très attaché aux valeurs de son pays. Donc, que ça soit retenu par tous que Maître Kam n'est en conflit contre personne. Ça fait déjà bientôt un an que notre client n'a pas été confronté à un juge et que ses demandes répétées pour être entendues n'ont jamais fait l'objet d'aucun examen. La législation en vigueur indique clairement que la détention provisoire ne doit dépasser 8 mois. Et ça fait déjà un an qu'il n'a pas été attendu. Il s'agit de ce fait d'une détention qui ne repose sur aucune décision, sur aucune base légale. Cette détention nous semble arbitraire, contraire aux textes en vigueur au Burkina Faso et contraire aux différents engagements internationaux signés par le Burkina Faso également. Nous ne savons pas jusqu'à aujourd'hui pour quel motif juridique notre client est retenu et détenu à la maison d'arrêt.
Les propos de Maître Saïd Larifou, l'un des membres du collectif des avocats de Guy Hervé Kam au Burkina Faso. Ces propos étaient recueillis par David Bachet, RFI, 8h36 à Dakar, au Sénégal. C'est officiel, l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire de Mouamadou Nghom, également connu sous le nom de Farba Nghom. Ce proche de l'ancien chef de l'État Macky Sall, soupçonné d'être mêlé à des irrégularités financières présumées, portant sur un montant de 125 milliards de francs CFA, soit plus de 190 millions d'euros. À Dakar, les explications de Léa Lisa Vesteroff.
Fin de plénière agitée, alors que 130 députés s'apprêtent à voter pour une levée d'immunité du député Farba Nghom, les membres de sa coalition, qui est aussi celle de l'ancien président Macky Sall, tous vêtus de blanc, quittent l'hémicycle, boycottant le vote. Pour Aïssata Tall Sall, ex-ministre de la Justice sous Macky Sall, lever l'immunité de Mouamadou Nghom n'est pas suffisamment justifié.
Lorsqu'on nous dit « vous n'êtes pas une commission d'enquête », sur le principe cela est vrai, mais nous voulons qu'il soit porté à notre connaissance les faits qui sont reprochés à notre collègue Mouamadou Nghom et qui fondent la demande de lever de son immunité parlementaire. C'est quand même un minimum.
Pour le président du groupe parlementaire du parti au pouvoir, le PASTEF, Aïb Dafé, toute la procédure a bien été respectée.
Les documents sont bien disponibles. Il y a une demande de levée de l'immunité parlementaire qui est motivée. Et vous avez entendu le rapport, les faits pour lesquels Farba Nghom est susceptible d'être poursuivi.
Parmi les infractions présumées recensées par le parquet financier, le blanchiment de capitaux, l'escroquerie portant sur les deniers publics, la corruption, le trafic d'influence et l'abus de biens sociaux, le tout autour de transactions suspectes pour un montant de 125 milliards de francs CFA auxquels Farba Nghom serait mêlé. Léa-Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
Et puis la fin de ce journal chez un voisin du Sénégal, la Gambie, où avec cette question à la une depuis quelques heures, va-t-il faire son retour? L'ancien dictateur Yahya Jammeh en exil a annoncé dans un message audio à ses partisans vouloir revenir dans son pays, mais aussi à la tête de son parti, la PRC. Lui qui a dirigé la Gambie d'une main de fer, c'était entre 1994 et 2017, et désormais donc en exil en Guinée équatoriale, depuis qu'il a été contraint de quitter le pouvoir à la suite de sa défaite à la présidentielle face à Adama Barrow, l'actuel président. Les détails avec Lisa Fabian.
Le message dure une trentaine de minutes. D'une voix lente, Yahya Jammeh s'adresse aux membres du parti qu'il a fondé, l'Alliance Patriotique pour la Réorientation et la Construction, dans lequel il promet de remettre de l'ordre. Mais le dictateur en exil semble aussi envoyer un message aux autorités gambiennes et même à la CDAO, qui a décidé mi-décembre d'établir un tribunal spécial pour la Gambie afin de juger les crimes commis durant ses 22 ans de règne.
Le jour de notre rendez-vous approche et ce sera aussi le moment de rendre des comptes. Mais si vous fuyez, je vous retrouverai. Ne fuyez pas, attendez-moi, arrêtez-moi et mettez-moi en prison si c'est ce que vous voulez. Vous pensez que j'ai peur de comparaître devant la justice ? Par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, je vais revenir, que ça leur plaise ou non.
Ce n'est pas la première fois que Yahya Jammeh annonce son retour prochain dans un message audio, alors qu'il conserve une influence sur la vie politique de son pays. Les défenseurs des victimes de son régime espèrent précisément que la création d'un tribunal spécial par la CDAO poussera les États membres à faire pression pour que l'ancien dictateur soit traduit en justice.
Un sujet signé Lisa Fabian et que vous retrouvez sur notre site internet rfi.fr. Merci d'être à l'écoute de la Radio du Monde. Il est 9h40 ici à Paris.